Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude comme un paradis. Elle ressemble à une main immense, remplie de prairies, d'arbres et de bêtes sauvages. Une main ouverte qui donne tout ce qu'il faut pour vivre. La nourriture, les nuits étoilées et les petits singes dans les branches pour s'amuser. Elle donne les pluies battantes dans lesquelles ils s'enfoncent tout nus en courant. Les siestes entre leurs parents, les hautes herbes qui penchent quand passent les lions ou le vent. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée, à perte de vue. Il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Mais Alma, l'héroïne de 13 ans, va être arrachée à son paradis d'Afrique et sa famille, dernière survivante du peuple des Hokos, devient la proie des trafiquants d'esclaves qui sévissent sur l'Atlantique. Alma, le vent se lève, de Thierry de Fombelle, paru aux éditions Gallimard Jeunesse, est un roman grand format, premier volet d'une trilogie qui nous emporte en près de 400 pages dans une fascinante aventure et devrait séduire, à partir de 11 ans, tout lecteur prêt à embarquer dans la fureur de l'océan et celle des hommes. Au XVIIIe siècle, l'Europe se livre au commerce d'êtres vivants pour les mener en esclavage. C'est la traite des Noirs. Mêlant réalisme fantastique et poésie, Thierry de Fombelle sème des indices, provoque des rencontres qui seront assurément exploitées dans les volets suivants. Nous lui faisons confiance. À partir de ce soir de Toussaint 1786, le parcours de la douce Amélie est rythmé par la récolte des captifs le long de la côte d'Afrique. De mouillage en mouillage, par grappes de 7 ou 8, parfois un peu plus, parfois beaucoup moins, des femmes, des enfants et des hommes viennent remplacer la cargaison de tissus, de fer, d'armes à feu, de mauvais alcool coupé à l'eau, d'ombrelles à franges dorées qui encombrent les soutes. Le beau bateau noir et jaune, avec ses voiles immaculées, et une jeune fille en chemise de nuit sculptée à la proue devient lentement un navire négrier. Le capitaine du vaisseau, la douce Amélie, charge sans scrupule des centaines de captifs, parmi lesquels il traque les Hokos pour leur valeur inestimable. Ils ont en effet des dons extraordinaires qui les rendent particulièrement précieux. Peu à peu apparaissent les ombres sur la plage. On mène les captifs par petits groupes vers la mer. Ils commencent à s'avancer dans l'eau. Presque tous sont enchaînés pour ce départ. Lourds et entravés, ils ne parviennent pas à monter dans les pirogues qui sont bousculées par les vagues. Les matelots hurlent autour d'eux. Les captifs se tiennent les uns aux autres sous la pluie. Leurs yeux se tournent vers la terre. Des coups tombent sur leurs épaules. La plupart n'ont jamais vu la mer. Les rouleaux se brisent et les empêchent de grimper. Ils sentent encore le sol sous eux. Leurs pieds s'enfoncent et dérapent dans le sable sous l'eau. Ils sont encore là, Parfois, ils profitent de celui qui tombe et auquel ils sont attachés pour revenir en arrière, pour s'attarder un peu sur la terre. Alors on les tire de l'intérieur avec force. Leurs pieds glissent. Ils sont arrachés. Ils ne sentent plus rien sous eux. Ils sont poussés au fond des pirogues. C'est fini. La lisière blanche de leur continent commence à s'éloigner. Entre les arbres, ils croient voir briller des lucioles par millions, les yeux de leurs ancêtres qui les regardent partir. En parallèle à cette tragédie familiale qui illustre, entre autres, le thème de l'exil, cher à l'auteur, Thierry de Fombelle met en scène plusieurs intrigues qui alimentent le récit avec des personnages en quête de trésors, de nature parfois différente, selon leur histoire ou leur personnalité. Lazare Bartholomé Gardel s'étient près de la barre. Il respire. Il a évité le pire. Pour que sa tranquillité soit parfaite, il donne l'ordre d'enfermer tous les captifs. Ils ne verront pas la lumière du jour jusqu'à nouvel ordre. Les événements lui ont aussi donné une raison d'écarter Poussin et Mars, dont il se méfiait. Ils se sont condamnés eux-mêmes. C'est parfait. Plus rien ne pourra venir perturber ses grands projets. Une seule question continue à le hanter. Le message ne dit pas l'endroit précis où se trouve le trésor. Par quel rivage aborder cette île de Zachée quand ils s'approcheront? Il sent le vent qui forcit. Un ciel noir s'annonce à l'ouest. L'orage vient. Le bruit du tonnerre lui rappelle celui d'un lointain combat naval. De nouveau, les ordres de Gardel résonnent à travers le navire. On cargue les voiles basses pour résister au vent qui s'annonce. La moitié de l'équipage est à la manœuvre. L'autre moitié continue à rentrer les captifs. Alma ne renoncera jamais à rechercher l'âme son petit frère. Elle nous entraîne en clandestin dans un équipage aux intentions parfois divergentes, sur les traces de pirates chevronnés. Richement documenté, construit avec finesse, ce roman a la force de ses personnages, au caractère très fouillé, au dialogue toujours efficace. En écho à ce travail, le célèbre illustrateur François Place rend à merveille les différentes atmosphères du récit, par son dessin à l'encre très sensible qu'il a déjà si souvent mis au service de beaux textes et qui partage avec Timothée de Fombelle et leurs lecteurs ce goût inconditionnel des longues histoires qui claquent au vent dans la pure tradition des grands romans d'aventure.
Encore un album pour les amoureux du beau et pour les amoureux des mots. Un album à la couverture superbe, tout en or, illustré d'un martin pêcheur très coloré, au-dessus d'une branche de ronce, couverte de mûres noires et rouges très brillantes. De quoi donner tout de suite envie de tourner les pages. L'origine de cet ouvrage est étonnante et un peu inquiétante. Robert McFarlane est un écrivain britannique. Il est surtout connu pour ses livres sur les paysages, la nature, les lieux, les gens, les voyages et les langues. Un jour, il a constaté avec stupeur qu'un certain nombre de mots avaient disparu du dictionnaire pour enfants, The Oxford Junior Dictionary, l'équivalent d'un petit Larousse Junior. Ces mots étaient pour la plupart des mots simples qui évoquaient la nature, les animaux, les paysages. Des mots comme alouette, belette, fougère, marron, roitelet, ronces ou vipères. Ils avaient été supprimés pour faire de la place à des mots plus modernes, des mots techniques, des mots du numérique et de l'informatique. Alors, Robert McFarlane a voulu leur rendre hommage dans cet album intitulé « Les mots perdus » publié aux éditions Les Arènes et qu'il présente ainsi sur la quatrième de couverture. Il y a très longtemps, certains mots commencèrent à disparaître du langage des enfants, si discrètement qu'au début, personne ne s'en aperçut. Et puis, un jour, ils n'étaient plus là. le dictionnaire n'en avait gardé aucune trace. Pour retrouver ce qui manque, il existe des formules magiques. Les mots perdus peuvent revenir. Pour cela, il a imaginé un abécédaire de 20 mots. Et pour chacun de ces mots, il a écrit un poème acrostiche. La première lettre de chaque vers, lue verticalement, permet de reconstituer le mot thème. Lierre. Lierre est mon nom et j'en suis fier. Infatigable voyageur, cascadeur, monte en l'air. Exfiltré par l'écorce et la pierre, je pénètre, rampe, écaille l'arbre, rase les murs. Et tu m'appelles encore couvre-sol? Je suis un céleste fil de fer et j'en suis fier. Saluons au passage la traductrice, Seymourina Cruz, qui a fait un travail remarquable. 6 pages sont consacrées à chaque mot. La première double page, en très grand format, comprend le poème écrit par MacFarlane et une aquarelle de Jackie Morris qui l'illustre. Elle est suivie d'une deuxième double page qui met en scène avec ingéniosité et espièglerie l'animal ou la plante, les oiseaux qui nichent bien cachés dans le lierre ou les loutres qui jouent dans la rivière. Enfin, une troisième double page où le pinceau joue avec les lettres de chacun de ces mots. Jackie Morris utilise des techniques variées, collage, dorure, aquarelle, dessin, et les images sont somptueuses, dignes des planches de Buffon à qui elles rendent un bel hommage. Allez, un dernier poème avant de refermer le livre. Triton. Triton, petit triton, tu es trop mignon, dit la foule qu'au petit triton. Regarde ce dos à froufrou, ce costume brillant, et cette peau mouchetée qui passe inaperçue. Trop mignon, rugit le triton à l'oiseau sans scrupule. Oh, assez! Avec tous ces mignons, tu me discrédites. Non, les tritons ne sont pas mignons. Des rois de l'étang, des lions de la lenticule, des dragons de l'eau. Des rois, des lions, des dragons minuscules. Un album plein de poésie à lire et à relire, à regarder et à admirer, à dévorer et à offrir.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et faire lire offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et faire lire https://lireetfairelire.laligue10.org 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast. Bonne écoute et belle découverte.